Europe 1.
Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. George Sand et Chopin. Ces deux noms sont associés dans notre imaginaire comme le sont Roméo et Juliette. Et pourtant, derrière la légende qui se plaît à entretenir la fable d'un amour passionné et fécond, on découvre une histoire bien triste, pour ne pas dire triviale. On organise des événements culturels à Nohant, où se trouve la maison de George Sand, comme si dans ce lieu se trouvait quelque matière à s'inspirer, à rêver. Nohant, un paradis perdu ? Y a-t-il jamais là-bas un quelconque parfum de paradis ? En examinant les personnalités si différentes de Chopin et de George Sand, en se rappelant sous quels augures ils se sont rencontrés, on se prend à douter. C'est cette relation plus complexe qu'il n'y paraît que je vous propose d'explorer dans ce nouvel épisode en deux parties. L'un des portraits les plus célèbres de Chopin est celui qu'a peint Delacroix. Il représente le compositeur assis au piano. Sa tête est légèrement tournée vers nous. Son œil semble contempler un ailleurs inaccessible au tableau. L'expression de son visage trahit la fatigue, en même temps qu'une ineffable sérénité. Le tableau d'origine représentait derrière Chopin George Sand. Par un étrange coup du sort, la toile fut coupée en deux. Chopin alla rejoindre le Louvre et George Sand, Lord Roopgaard Museum de Copenhague. Singulier destin que cette œuvre qui semble frappée de malédiction au-delà de la mort, un couple que la légende a tout fait pour présenter comme l'idéal de l'amour romantique. Sur la composition d'origine datée de 1838, George Sand paraît suivre les mains de Chopin posées sur le clavier mais invisibles pour nous. De la main gauche, elle esquisse un geste précis qui pourrait être une battue de mesure. Son visage de cire évoque la statuaire grecque et fait contraste avec la tourmente lumineuse qui anime le profil du pianiste. Ces deux portraits seraient inconciliables s'il ne se trouvait pour les unir cette couleur noire de leurs habits à laquelle enchérit le noir du piano et le noir de la chevelure de l'écrivaine. Et on ne soupçonnerait nulle passion entre ces deux artistes si Delacroix n'avait peint entre deux et au-dessus d'eux cette lourde tenture qui menace de les recouvrir de sa pourpre. George Sand est déjà un écrivain reconnu. L'Elia, publiée en 1833, a embrasé Paris. Sainte-Beuve, à qui elle en a lu des extraits dès sa conception, a crié « Au génie !» La timide co-auteure des romans de Jules Sandeau, forte de la moitié du nom de ce dernier, elle devient George Sand, et de cet accoutrement masculin dont elle ne se défera plus, est devenue un des points de mire du tout Paris. En 1836, l'année de sa rencontre avec Chopin, elle n'a que 32 ans, mais elle a déjà accumulé les unes sur les autres les vies de mystique, d'épouse, de mère et d'amante. Elle a déjà reçu les soufflets d'un mari ivrogne, subi les tempêtes de la passion amoureuse, usé son cœur auprès d'amants volages, connu la solitude et l'angoisse des mères isolées. Et si elle est revenue de la vocation religieuse ressentie à l'adolescence, elle n'a pas pour autant renoncé au seul idéal qui l'a fait vivre, l'amour. Mais l'amour pour elle ne peut plus s'accorder avec la religion. Et ses vertus qu'elle avait cherché à conquérir dans sa jeunesse ne lui inspire plus que de l'amertume. Je crains un peu ces hommes vertueux de naissance. Je les apprécie bien comme de belles fleurs et de beaux fruits, mais je ne sympathise pas avec eux. Ils m'inspirent une sorte de jalousie mauvaise et chagrine, car après tout, pourquoi ne suis-je pas comme eux ? Je suis auprès d'eux dans la situation des bossus qui haïssent les hommes bien faits. Les bossus sont généralement puérils et méchants, mais les hommes bien faits ne sont-ils pas insolents ? Fades et cruelles envers les bossus. De son ancienne crise religieuse, elle a gardé une attirance pour les faibles et les marginaux. Alors qu'elle était pensionnaire, elle s'était attachée à une bonne sœur irlandaise, phtisique, à qui personne ne parlait et qui s'occupait des tâches les plus communes du couvent. Mais ni ses camarades de classe, ni la directrice de l'établissement n'avaient été dupes. Celle qui jusque-là s'était fait remarquer par un comportement infernal abandonnera rapidement Dieu pour Jean-Jacques Rousseau et sa quête du royaume des cieux pour le combat social. Elle rencontre Chopin en 1836 par l'entremise de Franz Liszt et Marie Dagout. Le couple est déjà célèbre dans Paris. De toute l'Europe, on se presse pour écouter Liszt en concert. On boit le thé dans des services ornés de son portrait. Avec Marie Dagout, qui a créé le scandale en abandonnant son mari pour le suivre, ils sont le point de mire du monde artistique. George Sand sort tout juste de sa relation passionnelle avec Alfred de Musset. Elle se sent usée, vieillie avant l'âge. Si Musset a été jusque-là son histoire d'amour la plus dévastatrice, elle n'a pas été de loin la seule depuis sa venue à Paris. Suivant l'adage antique qui affirme qu'une femme peut n'avoir qu'un seul amant, mais qu'elle ne peut pas en avoir que deux, George Sand a enchaîné les aventures suivant la pente naturelle de son cœur. Lorsqu'elle se présente à Chopin, son cœur est à peu près libre si l'on fait abstraction des extras, au nombre desquels il faut compter un certain Malfille qu'elle a logé dans sa maison familiale de Nohant. Son cœur aurait-il pris feu avec autant d'ardeur si elle avait rencontré Chopin sans entendre sa musique? On peut en douter. Le fait est qu'elle va l'entendre jouer et qu'elle va en tomber immédiatement amoureuse. La physionomie de Chopin n'attire pourtant pas particulièrement son attention. Mais il a déjà tout pour lui plaire. Il est de constitution fragile, il est pâle, il est blond, et il vient de cette pauvre Pologne qui est à l'Europe ce que les martyrs sont à l'Église. Chopin, quant à lui, ne se montre pas du tout séduit. Il confie à un ami
« Quelle femme antipathique, cette Sand. Est-ce vraiment bien une femme? Je suis prêt à en douter. »
George Sand, de son côté, va tout faire pour le revoir. Par chance, elle s'est liée d'une amitié sincère avec Marie Dagout, l'occasion pour elle de susciter une nouvelle rencontre. Quant à ce Malfille qui l'attend à Nohant, tant pis pour lui, il réglera son sort plus tard. Au moment de sa rencontre avec Sand, Chopin a 25 ans. Il a déjà écrit certaines de ses œuvres les plus universellement célèbres, dont les deux cahiers d'études. En tant qu'artiste, sa maturité est acquise. Il n'est pas un compositeur en devenir. Sa vie personnelle n'est pas aussi tumultueuse que celle de George Sand. Il est fiancé à une jeune fille de noble sang, Marie Wodzinska, une amie d'enfance. Fidèle, peu enclin à la vie mondaine, Chopin a déjà ce caractère mélancolique qui est le propre des phtisiques, même si la maladie ne s'est pas encore manifestée en lui. D'un naturel discret, il peut se montrer franchement drôle. On dit qu'il est un mime fantastique. George Sand, depuis qu'elle l'a vu, ou plutôt entendu, envoie des lettres exaltées à Marie Dagout. Elle a appris que Chopin était fiancé. Bon, ce n'est pas un drame. Est-ce que du moins la promise peut assurer le bonheur de son futur? Est-ce que lui, Chopin, en est vraiment épris? Est-ce que ce mariage va lui apporter le bonheur et surtout l'équilibre dont il a certainement besoin? Allons, mettons de l'ordre dans tout ça. Oui, bien sûr, il y a ce Malfille qui est en ce moment chez nous à Nohant. Bon, on ne va pas le congédier tout de suite, on va attendre, inutile de faire un scandale de plus. Marie Dagout ignorait que l'affaire prendrait une telle tournure. Dès qu'elle comprend que sa nouvelle amie a décidé de s'accaparer Chopin, elle va tout faire pour contrarier son projet. Ce Chopin, vous savez, est un homme irrésistible, mais irrésolu. Il n'y a de permanent chez lui que la toux. Avertissement qui, loin de décourager une femme comme George Sand, va au contraire lui donner du cœur à l'ouvrage. D'autant qu'une nouvelle va venir considérablement peser dans son achèvement. On vient d'apprendre en effet que les fiançailles de Chopin ont été rompues. Sa future belle-famille ne pouvait accepter de donner une fille de sang noble à un roturier qui plus est désargenté. Une aubaine pour Sand, un calvaire pour Chopin. On retrouvera à sa mort un paquet de lettres. Sa correspondance avec Marie Wodzinska, nouée par un ruban bleu, sur laquelle le compositeur, peu de temps après leur séparation, a écrit « Moya bieda, mon malheur ». Ce sont chacun à leur manière deux cœurs détruits qui vont se rencontrer. Nous ne nous sommes point trompés l'un l'autre. Nous nous sommes livrés au vent qui passait et qui nous a emportés tous deux dans une autre région pour quelques instants. Mais il n'en faut pas moins que nous redescendions ici-bas, après cet embrasement céleste et ce voyage à travers l'Empyrée. Pauvres oiseaux, nous avons des ailes, mais notre nid est sur la terre, et quand le chant des anges nous appelle en haut, le cri de notre famille nous ramène en bas. Si George Sand se montre plus que bavarde sur sa vie intime, il en est tout autrement de Chopin. Le compositeur se livrait tout entier à son piano qui était son seul confident. De ses sentiments pour George Sand, on ne sait rien. Cette pudeur de jeune fille dans les amours est tout à fait étonnante, car en amitié, Chopin sait dire « je t'aime ». Il le dit à ses amis au début et à la fin de chaque lettre. Il peut l'écrire deux, trois fois, puis ajouter « aime-moi ». Il ne nous est resté de la correspondance de Chopin et de Sand que 17 lettres. La romancière s'est appliquée, pour des raisons obscures, à tout faire disparaître. Dans ces quelques reliques, on ne trouve pas un mot d'amour. Quand les lettres de Chopin adressées à Fontane ou Grimala commencent toutes par « mon chéri, mon âme bien-aimée, ma vie ». Rien à voir donc avec la déferlante linguistique qui s'échappe de George Sand dès que son cœur se met à battre. Elle s'en ouvre à tous et à toutes, quitte à se fourvoyer. J'ai connu plusieurs sortes d'amour, amour d'artiste, amour de femme, amour de sœur, amour de mère, amour de religieuse, amour de poète, que sais-je. Il y en a qui sont nés et morts en moi le même jour sans s'être révélés à l'objet qu'ils inspiraient. Il y en a qui ont martyrisé ma vie et qui m'ont poussé au désespoir, presque à la folie. Tout cela était parfaitement sincère. Mon être entrait dans ses phases diverses, comme le soleil, disait Sainte-Beuve, entre dans les signes du zodiaque. À qui m'aurait suivi en voyant la superficie, j'aurais semblé folle ou hypocrite. À qui m'a suivi en lisant au fond de moi, j'ai semblé ce que je suis en effet, enthousiaste du beau, affamé du vrai. Très sensible de cœur, très faible de jugement, souvent absurde, toujours de bonne foi, jamais petite ni vindicative, assez colère et grâce à Dieu, parfaitement oublieuse des mauvaises choses et des mauvaises gens. Cette tirade échevelée fait partie d'une lettre d'une dizaine de pages que George Sand, désormais éperdument amoureuse de Chopin, envoie au grand ami de ce dernier, Grimala. On ne peut pas mieux faire sa propre publicité. Quelle résistance pouvait opposer Chopin à ce maelstrom dévastateur qu'il n'avait ni la force ni sans doute le désir de combattre? Les gazettes de l'époque vont s'étonner de cette tournure des événements. Dans Paris, on avait propagé divers ragots, parmi lesquels celui d'une romance entre Liszt et George Sand. La romancière avait balayé tout cela avec mépris, affirmant qu'il lui était aussi impossible d'aimer Liszt que d'aimer les épinards. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai et je vous répondrai. Ce podcast est une création Europe 1 Studio. L'épisode que vous venez d'entendre a été écrit par Jean-Louis Bachelet. La réalisation est signée Oscar Vatter. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Et si vous souhaitez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. Je vous retrouve demain pour la seconde partie de mon récit Au cœur de l'histoire, consacré à George Sand et Frédéric Chopin.